Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 1er novembre 1990.
Nous allons continuer pour fêter tous les saints, faire un peu de métaphysique. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, donc ils se réjouissent qu'on fasse un peu de métaphysique. Parce que du haut du ciel, ils savent bien l'importance de la sanctification de l'intelligence. Et notre intelligence commence à se sanctifier dans la mesure où elle cherche la vérité. On ne peut pas se sanctifier autrement. C'est une manière très noble de se sanctifier, la recherche de la vérité, puisque la vérité, c'est le Christ. Alors nous mettons toute notre intelligence en éveil. Mais un beau lever de soleil, voilà tout ça. C'est notre intelligence en éveil, qui est en état d'admiration, en état d'attente, pour essayer de pénétrer plus avant ce qu'est la réalité, dans ce qu'elle a de plus profond, dans son exister. Mais cette petite question, en passant de est et à être, donc du présent du verbe être, ceci est à qu'est-ce que c'est que l'être, on fait de est un substrat, un, ou plutôt un je. C'est-à-dire qu'on substantifie formellement et en le faisant passer de la substance. Oui. Oui, de la substance. Il y a un petit mot là, je ne vois pas lire, ça fait rien. On en fait donc formellement un sujet et une cause. Le pourquoi, ce qui est, en référence donc par la suite à la question qu'est-ce que c'est que l'être ? Oui, bon, je reprends si vous voulez pour que nous comprenions mieux qu'est-ce que veut dire. Je vous ai dit. Le jugement d'existence, ceci est. Par le point de vue de cette sorte d'intuition, quand je vois que ceci peut être aussi bien le cheval, le chat, moi-même, tout ce qui est autour de moi, ceci est. Jugement d'existence. Très fondamental. Je m'aperçois que grammaticalement, et je reviens là-dessus, parce que ça va nous aider à comprendre Heidegger. Grammaticalement, et est relatif à ceci. Et quand je vois tous les ceci possibles, divers, je vois que le ceci se relativise et s'ordonne à est. Et c'est le verbe être dans le présent est qui est l'essentiel, qui polarise tout ça. Ça polarise tous les ceci. Tous les ceci sont polarisés. Donc, est mis en pleine lumière. Raïssa appelle cela, dans le ciel elle doit s'amuser, Raïssa appelle ça l'intuition de l'être. Je dis que ce n'est pas une intuition de l'être au sens absolu, c'est la mise en lumière de « est » comme ce qui polarise tous les ceci. Donc il y a bien une certaine intuition. puisque dans la diversité, je saisis une unité. Ça, c'est une intuition. Saisir l'unité à travers la diversité. Je saisis et présent dans la vache, dans le chat, dans toutes les réalités qui sont autour de moi. Toutes ces réalités existent. Cette intuition éveille l'intelligence et il y a à ce moment-là une attitude plus affective de l'intelligence, cet appétit de l'intelligence à découvrir et on appelle ça l'admiration. C'est pas commun de voir ce que c'est que l'admiration. Il y a une admiration esthétique, c'est vrai, pour regarder le lever du soleil. Habituez-vous à regarder le lever du soleil et le coucher. C'est pas une distraction. C'est beau. Il faut de temps en temps voir des choses belles. Alors quand autour de nous, c'est pas toujours très beau, n'est-ce pas ? Il vaut mieux élever son regard vers le ciel. Alors à ce moment-là, on est en état d'admiration. Il y a une admiration qui est au niveau de la vie même de l'intelligence. Qui est l'aurore de la recherche de la vérité. C'est bien l'appétit de l'intelligence à découvrir ce pourquoi elle est. Mais cet appétit de l'intelligence implique aussi une attitude d'attention de la volonté. Donc c'est à la fois la volonté recherche ce pourquoi l'intelligence existe. Et l'intelligence est en éveil. Donc, il y a intuition de l'être, admiration, et de là naît la question. Qu'est-ce l'être ? Et je disais, alors, au plan grammatical, comprenons bien, on passe du présent à l'infinitif. L'infinitif a cette propriété de faire du verbe, qui normalement est relatif, à un nom. Le ceci, c'est le nom. De faire que le verbe est pris comme un nom. Donc il est pris comme un substantif. Donc ce qu'on soulignait, il est pris comme un substantif. Je le regarde pour lui-même. Mais faisons attention. C'est au point de vue du nom qu'il est substantif. Au point de vue de l'intelligence, il demeure le verbe. Il n'est pas un nom. Il est quelque chose de tout à fait nouveau. À partir du présent, je regarde le verbe être. La signification de être. Quelle est la signification de être ? La signification de être est la même que celle de « est ». C'est ça qu'il faut bien saisir. Et pour bien comprendre que la signification du verbe « être » pris à l'infinitif est la même que la signification de « est » pris au présent, nous pouvons prendre cet exemple quand on passe de blanc à blancheur. C'est analogiquement la même chose. Blanc est un attribut. L'attribut du mur. Le mur est blanc. Et je peux mettre blanc en pleine valeur en parlant de blancheur. Vous voyez, il y a quelque chose d'analogue comme démarche. L'attribut est pris dans toute sa force pour ne regarder que lui. Je le sépare du mur pour ne garder que la blancheur, pour ne garder que le blanc. Et pour ne regarder que le blanc, c'est la blancheur. Pensez à son et lumière. Là encore, hein, c'est un exemple. On montre une partie, le clocher. Vous voyez ici, son et lumière. Saint-Jodard, c'est le clocher. C'est la pointe vers le ciel. Une pointe assez particulière, assez lourde, parce qu'on a de la peine à pointer le ciel, mais c'est quand même la pointe vers le ciel. C'est ça le clocher. En pleine lumière, on met blanc, blancheur. L'intelligence fait cela. C'est courant, blanc, blancheur. Et vous cherchez dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que blancheur? Ce par quoi le blanc est blanc. Ça vous avance à beaucoup. Ce par quoi le blanc est blanc. Et tous les noms abstraits, c'est comme ça. Ce par quoi. Qu'est-ce que c'est que ce par quoi? C'est le principe qui permet de comprendre ce que c'est que le blanc. Ce par quoi le blanc est blanc. Mais qu'est-ce que c'est que la blancheur? Je reviens à l'expérience. Je n'ai pas l'expérience de la blancheur. Sauf intellectuellement. Mais ce n'est pas une expérience. J'ai conscience que je dis blancheur. Mais je n'ai jamais touché avec mon œil la blancheur. Jamais. Je ne touche que le blanc. Je n'ai l'expérience que du blanc. Donc, pour savoir ce que c'est que la blancheur, je reviens au blanc. Et le blanc, il est multiple. Il y a le blanc du mur, il y a le blanc du visage, il y a le blanc de la main, il y a le blanc de la chemise. Bien lavé. Parfaitement lavé. C'est une expérience. Le blanc de la neige. Oui, je reviens à cette expérience du blanc multiple. Et chaque fois que j'ai l'expérience du blanc, la blancheur, dans sa signification, s'enrichit. Si je n'avais qu'une seule expérience du blanc, le blanc du mur, serait assez faible comme expérience, comme signification, tandis que ça s'enrichit par toutes ces expériences. Mais qu'est-ce qui permet d'avoir une signification parfaite de la blancheur? C'est toutes ces expériences du blanc. Je transpose. Même procédé. Qu'est-ce qui me permet d'avoir une signification de être? Seule l'intelligence se pose la question de la signification. Mais je n'ai pas l'expérience de l'être, tandis que j'ai l'expérience, la méta-expérience de ceci est, à travers la vache. Oui. L'expression d'Aristote, que j'aime beaucoup, l'être à la vache grecque, l'être à l'homme, to einai anthropo, à l'homme l'être. C'est très beau ça, vous voyez, le français ne dit pas ça, mais je peux le prendre par le grec. Parce que ça montre que chaque fois que j'ai l'expérience d'une réalité qui existe, mon intelligence, en ayant l'expérience de cette réalité qui existe, enrichit sa signification de l'être. Et c'est pour ça que pour savoir qu'est-ce que c'est que l'être, je reviens à l'expérience, ceci est. Ceci est par rapport à la vache. L'être de la vache. L'être à la vache. C'est mieux l'être à la vache que l'être de la vache. Et vous comprenez pourquoi? Parce que quand je dis l'être de la vache, je mets être attribut. Tandis que je dis l'être à la vache, ah, je garde l'être dans toute sa force. C'est des petits riens, des petites nuances grecques, ça. Mais c'est très important. Parce que ça montre que je maintiens la signification de l'être quand je regarde la vache. Et quand je reviens à l'expérience ceci est, je veux savoir l'être à ceci. Qu'est-ce que c'est que l'être dans le ceci? Alors, je disais, et je reviens là-dessus, parce que c'est important, Heidegger, qui est quand même le dernier qui a parlé de l'être. C'est vrai, parce que les philosophes d'aujourd'hui ne parlent plus beaucoup de l'être. Il y en a même qui disent qu'il faut supprimer Dieu sans l'être. Heidegger, lui, coupe. Je ne peux pas, si je cherche la signification de l'être, revenir à ceci. Je reviens à la pensée. Penser l'être. Je ne dis pas je pense l'être, mais c'est penser l'être. Vous voyez ? Donc je prends l'être, ou une pensée, aussi à l'infinitif. Et l'être à l'infinitif. Et je montre cette relation très intérieure, penser et être. Et je dis que l'être ne peut être exprimé que dans la pensée. Vous voyez, je reviens au cogito. Pour Heidegger. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Alors, l'avantage, c'est qu'à la place de dire je le mets entre parenthèses. Je dis penser, être. Penser, je suis. Et je supprime le je suis. Et je dis être. Vous voyez ? Je prends tout à l'abstrait. C'est un mode abstrait, c'est un mode absolu de l'infinitif. Heidegger dit ça. Pourquoi ? C'est que Heidegger considère que la parole et la pensée s'identifient. Ce qui est dans Parménide. N'oublions pas que la source de Heidegger, c'est Parménide. Or, dans Parménide, le Legein, le Noein et l'Einein sont identiques. Je traduis le Legein, le dire, le Noein, le penser, l'être. Alors, si le penser, le dire et l'être sont identiques, il est bien évident que être et ceci est ne sont pas identiques. Autrement dit, la grammaire spécifie l'intelligence. La parole, dans sa modalité particulière, spécifie directement l'intelligence. Pour nous, dans une vision réaliste, la parole est le fruit de l'intelligence et non pas le principe de l'intelligence. Quand je parle, normalement, je pense. Normalement. Parce que quelquefois, on parle pour se donner du courage. On ne pense pas beaucoup. On parle pour s'éveiller à la pensée. Beaucoup de gens sont comme ça. C'est pour ça qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils disent. Tandis qu'au contraire, normalement, quand on parle, on exprime sa pensée. Et donc la parole est le fruit de la pensée. Et la pensée est relative à l'être. Le Noein est relatif à l'être. Et le Legein est relatif au Noein. Donc c'est pas identique. Il y a une relation entre le dire et la pensée et l'être. Donc il y a deux relations. Et non pas identité. Pour Heidegger, en raison du climat dans lequel on est, en raison de ce retour à Parménide, Heidegger saisit très souvent la signification des mots par l'étymologie. Parce qu'il considère que la parole m'aide à découvrir la signification. Il y a quelque chose de juste. La parole conditionne la signification, mais ne donne pas la spécification. Sauf si j'identifie la pensée et le langage. Et donc, à la place d'un avoir une philosophie qui cherche ce qu'est la réalité, on a une philosophie du langage. Pour Heidegger, c'est une philosophie du langage. Alors, à ce moment-là, et être sont différents. L'un est absolu, l'autre est relatif. Ce n'est pas la même chose, absolu et relatif. Je relativise l'être dans les temps. Puisque quand je dis ceci est, je montre un étant, une réalité limitée. Et dans les temps, l'être est relatif. Donc il n'est plus saisi dans tout son absolu. Le propre de la métaphysique, de l'ontologie fondamentale, pour respecter le langage de Heidegger, ce qui est très important, dans l'ontologie fondamentale, l'être pris d'une façon absolue n'existe que dans la pensée. Penser l'être. Si donc l'être n'existe dans tout son absolu que dans la pensée, revenir à l'expérience, c'est perdre l'absolu de l'être. Je ne peux donc que réfléchir sur ma question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et c'est à l'intérieur même de la pensée, c'est à l'intérieur même de la pensée que je dois découvrir la signification de l'être. J'ai donc être, pensée, signification. Vous voyez, le serpent qui mord sa queue. Je ne peux plus sortir de la pensée pour découvrir l'être. C'est dans la pensée que je saisis l'être. Et uniquement. Et je me coupe complètement de toutes mes expériences. Toutes mes expériences sensibles, je les laisse au savant. Il le dit. L'étang, c'est le domaine de la science moderne qui expérimente tout cela. Ce n'est pas le domaine de la philosophie première. Ce n'est pas le domaine de l'ontologie fondamentale. Alors vous voyez qu'en faisant ça, sans s'en apercevoir, Heidegger revient au vécu. Le vécu de l'être, c'est penser l'être, c'est qu'est-ce que c'est que l'être. Il voudrait en sortir. C'est pour ça qu'il a quitté Husserl. Il a quitté son premier maître, Husserl, qui a gardé le vécu, la conscience du vécu. Il l'a quitté pour redécouvrir l'être. Et coupant l'être de l'expérience, il s'enferme dans le vécu du penser. Mais c'est assez tragique. C'est intéressant pour nous. Mais c'est le tragique de l'être. Il y aurait un petit... si vous êtes poète, écrivez ça. Le tragique métaphysique de Heidegger. Il a quitté le vécu et le retrouve. Mais il a quitté le vécu commun pour retrouver le vécu heideggerien. Alors là, il est seul. Parce que c'est vrai, quand je pense l'être, je peux dire que je suis seul à penser l'être. Parce que votre manière de penser l'être n'est pas la mienne. Donc je suis seul. Oui. Je suis dans ma citadelle, penser l'être. J'ai levé les points de vue. Je suis complètement séparé. Et je pense l'être. Et je meurs en pensant l'être. Et en mourant en pensant l'être, je découvre, j'espère, le visage de Dieu. L'être. C'est vrai. Heidegger dit qu'il faut... Parce qu'on a accusé Heidegger. C'est un philosophe de Louvain qui a accusé Heidegger d'athée. Heidegger a répondu non. Ma philosophie n'est pas l'athéisme. J'attends la révélation de Dieu. Il dit, la philosophie, c'est uniquement l'ontologie fondamentale, c'est une attente de la révélation de Dieu. Ça, c'est grand, c'est beau. Par penser l'être. En disant que penser l'être me met le plus proche de la peux pas aller plus loin. Nous ne disons pas ça, nous. Et on comprend très bien comment Heidegger ne peut pas dire autre chose que cela. Parce qu'il n'a pas vu la distinction entre la parole et la pensée. La pensée et l'être. Il a trop imité Parménide. Ce que dit Parménide est vrai de Dieu, mais seulement de Dieu, c'est-à-dire de l'être premier. L'être premier, sa pensée et son être ne font qu'un. Et l'être de Dieu, sa pensée, son être et sa parole ne fait qu'un. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, le dire de Dieu qui dit la lumière soit, c'est l'être même de Dieu. Oui, donc ce que dit Parménide sur l'être, sur la pensée et sur le dire, est vrai de l'être premier, c'est-à-dire de Dieu. Mais pas de moi. Mais pas de Parménide. Mais pas de Heidegger. Deuxième petite remarque. Je vous ai dit, Heidegger ne parle jamais du jugement d'existence. Il dit « il y a ». Donc, à la place de dire « ceci est », il dit « il y a ». Alors, voyez, petit blocage entre expérience et jugement d'existence. Nous distinguons les deux, nous. Et je dis que le jugement d'existence, c'est une méta-expérience. Si c'est une méta-expérience, c'est un au-delà de l'expérience, à l'intérieur de l'expérience. Heidegger ne fait pas ça. Il y a la place de faire la distinction. Il dit « il y a ». Le « il y a » contient l'expérience et dans l'expérience, le jugement d'existence. Mais je ne distingue pas. Je dis « il y a ». Es gibt, c'est donné, c'est le donné. Eh bien, je dis, écoutez bien, c'est le positivisme qui s'introduit dans l'être. C'est le fait, c'est le donné qui refuse toute analyse. Alors que je dis que l'expérience que je fais est une expérience de l'intelligence. Je touche la table. Je peux très bien être lucide dans ce toucher de la table. Et je dis, cette table existe. Ce n'est pas artificiel. Cette table existe. Elle existe parce qu'elle est en bois. Et l'existence de cette table, c'est l'existence du bois. Et ce bois, il provient d'un arbre. Et cette table, à un moment donné, a existé. Et elle, a même, elle vivait. Maintenant, elle est morte. Elle est le sépulcre des vers. Elle est morte. Elle existe. Je peux très bien être suffisamment lucide en face de la complexité de l'expérience. Et de voir que l'expérience implique mes sensations, je touche. Sensations propres, sensibles propres. Cette table, elle n'est pas rigoureuse. Elle est assez bien, elle est assez polie, cette table. Dans tous les sens. Parce qu'elle est propre. Il n'y a pas trop de poussière. Sensations. Sensible propre, sensible commun. Oui, sensible commun. Je peux la mesurer. Et puis, l'intelligence, elle existe. Ah, quand je dis cette table existe, est-ce que c'est encore mon toucher qui dit qu'elle existe? Non, c'est mon intelligence dans mon toucher. Donc, je peux très bien distinguer, non pas séparer, distinguer. Ceci est cette table. Que je touche existe. Je peux distinguer l'exister de cette table et le toucher et la couleur de cette table. Je distingue ça. Couramment, je le fais. Je sais bien qu'elle existe. Quand vous allez acheter une table ou des carottes, vous ne posez pas la question à la marchande. Ces carottes, madame, est-ce qu'elles existent? Posez pas la question. Il y a un blocage pratique qui se fait. Et poser la question, ce serait indécent. Un Anglais serait choqué. Complètement indécent de poser la question. Est-ce que ça existe? Mais non, quoi, dis pas ça à cette brave dame, quoi. Vous la dérangez et vous la scandalisez en demandant ça. Parce qu'elle vous dira, mais quoi, je vais pas vous en vendre des choses artificielles. Ça existe, c'est des carottes qui sortent de mon potager. Et je le sais, elles sortent de mon potager. Elles existent. Elles sont encore vivantes. Par combien de temps? Elles sont encore vivantes, ces carottes. Quand vous les couperez, la vie disparaîtra. Mais elles existent, donc vous la scandalisez. Et elle prend ça comme un affront. Donc il ne faut pas le faire. Tandis que si vous êtes avec un philosophe qui est idéaliste, vous touchez ses carottes. Est-ce qu'elles existent? Je me souviens, c'était une discussion que j'avais avec des psychanalystes freudiens et qui prétendaient tout le temps que l'intelligence était incapable de saisir une réalité autre que leur propre vécu. Et on discutait là-dessus. Comment l'intelligence découvre un objet. Ces psychanalystes étaient venus en Suisse, parce que je ne pouvais pas venir à Paris. On avait choisi un lieu magnifique. Je vois encore le lieu, dans une forêt. On discutait ferme. Puis tout d'un coup, un petit écureuil arrive. Puis danse. Là, la discussion s'arrête. On regarde l'écureuil. Tous, les psychanalystes freudiens aussi bien que moi-même, on regarde l'écureuil. Puis comme on le regarde de trop, l'écureuil est intimidé et il s'éloigne. Quand il est éloigné, je dis, alors qu'est-ce que vous avez vu? Mais on a vu un écureuil. Vous n'avez pas vu ça? Mais oui, je l'ai vu. Ben, c'est curieux, quoi. Votre vécu n'était pas d'accord avec le mien. Et maintenant, on dit qu'on a vu un écureuil. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas su me répondre. Votre vécu s'est changé en écureuil. Et le mien aussi. Sous quel effet? Ceci est. Voyez, ceci est. Donc je peux, à travers l'expérience, distinguer le ceci est. Et c'est l'éveil de mon intelligence. Au-delà des sens. Et à travers des sensations. Je fais là donc la distinction entre l'expérience et la méta-expérience du jugement d'existence. Tandis que, si je dis « il y a », je ne fais plus la distinction. J'affirme que je suis devant quelque chose qui me dépasse. Il y a. Est-ce que ce n'est pas le « noumen » de Kant? Il y a quelque chose que je ne saisis pas, qui est étranger à moi. J'ai cherché quel était le premier philosophe qui, à la place de parler du jugement d'existence, disait « il y a ». Et j'ai trouvé Occam. Donc, Heidegger dépend de Parménide et de Occam. Pauvre Heidegger. Occam. Vous savez bien c'est qui Occam? 14e siècle. Occam était un franciscain de Londres. Occam était un franciscain qui dit, c'est le premier, qui identifie logique et métaphysique. Et Occam dit que l'intelligence se connaît avant de connaître le réel. on pose la question à Occam, qu'est-ce qu'il y a de premier dans la vie de l'intelligence? Occam dit intelligo. Voyez, l'ancêtre du cogito. Qu'est-ce qui est premier dans ma vie intellectuelle? Cogito. Occam dit intelligo. Et comme il est franciscain, il dit intelligo et amo Socratem. Je connais et j'aime Socrate. Voyez. Alors la différence entre Occam et Descartes, on a fait tomber amo Socratem, on a transformé intelligo en cogito, mais c'est exactement la même chose. Ce qu'il y a de premier dans la vie de l'intelligence, ce n'est pas le jugement d'existence, c'est la pensée. Et c'est Occam, l'ancêtre de Descartes. Vous voyez, Descartes n'a rien inventé. C'est la Sorbonne qui, à la place de mettre Occam avant, a mis Descartes. Descartes n'a rien inventé. Il a dit intelligo avant. Et alors, Occam veut expliquer comment rejoindre le réel. C'est très simple. Intelligo. Puis, j'ajoute les sensations. Et je rejoins le réel. Et Occam ne dit pas le jugement d'existence, il dit habetur. Je traduis habetur. Il y a un mur. Il y a un petit chat. Il y a une réalité. Habetur. Es gibt. C'est quelque chose de donné. Il y a un donné. Et ce donné, je l'atteins par les sens. Et c'est mon intelligence qui s'applique par les sens. Donc je ne saisis pas l'être de la réalité. Je ne saisis que ses sensibles, que les apparences. La réalité, dans ce qu'elle a de profond, je l'ignore. Vous voyez, Kant est présent. Pour comprendre Kant, c'est quand même important. Pour comprendre le noumen de Kant, le noumen de Kant que j'ignore, il faut tout simplement comprendre qu'on a confondu le jugement d'existence avec il y a. Alors réfléchissez beaucoup à ça. Parce que c'est un tournant philosophique, ça. On n'a pas voulu être lucide dans l'expérience. Et on a dit que c'était tout simplement l'intelligence, intelligo, plus, il dit plus, les sensations. Et alors, quand je dis il y a un mur, il y a une réalité, c'est l'intelligence qui se sert des sens et qui touche la réalité. Mais elle la touche par les sens, elle ne la comprend pas. Mais l'intelligence s'est mise au chômage. Elle touche le réel. Elle ne le comprend plus. Et elle dit simplement, il y a une réalité. Et quand je dis, il y a une réalité, je veux simplement montrer que la réalité, je ne la connais pas. Mais c'est un obstacle. Alors c'est très curieux de voir de Occam à Heidegger la même chose. Le jugement d'existence est mort depuis Occam. Parce que chez Descartes, vous n'avez pas de jugement d'existence. Ou plus exactement, chez Descartes, le jugement d'existence peut se faire grâce à l'existence de Dieu. Descartes dit, je peux dire que cette table existe parce que Dieu existe. Le petit chat existe parce que Dieu existe. C'est extraordinaire. Moi j'existe dans mon intelligo, dans mon cogito. Cogito ergo sum. J'existe. pense, donc je suis. Mais si je suis, Dieu existe. Et je n'existe que parce que Dieu existe. Et ce qui est vrai de moi est vrai de toutes les autres réalités. Ah, vous voyez que le jugement d'existence devient une conclusion. Et n'est plus du tout un contact direct avec le réel. Et donc, si c'est une conclusion, la réalité ne nourrit plus mon intelligence, ne spécifie plus mon intelligence. Qu'est-ce qui spécifie mon intelligence ? C'est intelligo. C'est ma propre pensée. C'est mon propre cogito. À partir de là, je découvre la subjectivité transcendantale. Vous voyez, je crois qu'il faut saisir ça pour saisir ce que représente toute la modernité. C'est très curieux, hein? La source du Rhône et du Rhin, elles sont très proches. Mais si je les confonds, je confonds deux fleuves totalement différents. Ceci est, il y a, avait tour. Vous voyez, c'est curieux, c'est le verbe avoir. Ici, c'est le verbe être. Intelligence réaliste qui respecte la transcendance de ceci est. Le petit caillou existe, il me transcende. Ceci existe, il me transcende. J'ai pas le droit de piétiner, ça existe. Et puis, source. Philosophie idéaliste, de la philosophie de Descartes, de Kant, de Hegel. Et Heidegger a voulu échapper à ça, mais n'a pas vu qu'il fallait dépasser le « il y a » pour découvrir ceci est. Il est resté dans le « es gibt ». Mais « es gibt ». Il y a, ceci est donné. Et je dis bien, c'est le positivisme à l'intérieur de l'être. On confond l'être et la